les grands débats.
Radio de la Paix. Jean-Claude Comé.
Auditrice, auditeur de la fréquence de la paix, nous sommes heureux de vous retrouver dans cet espace pour parler d'un concept. Si nous parlons de Félix Houphouët-Boigny, vous connaissez en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce personnage multidimensionnel. Mais il y a un concept qui est né justement de sa pensée, de ses actes, concept qui fait l'objet de réflexions de la part des universitaires. Et c'est à l'occasion de ce colloque international sur l'oufotisme, un concept qui sera expliqué par nous. Invités. Et justement, nous recevons pour cette table ronde professeur Bois Thiemélé Ramsès. Il est donc professeur titulaire de philosophie à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous recevons aussi Dr Boulou Mitri Abel. Il est maître de conférence donc à l'Université Jean-Laurion Guédé de Daloa. Il est géographe. Et puis Moulumba Ndiadia Roland. Il est donc assistant à l'Université de Kinshasa au département d'histoire. Voilà ces trois personnes pour parler de l'oufotisme. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous vous recevons pour parler de Félix Houphouët-Boigny, mais surtout de sa pensée, à l'occasion donc de ce colloque international sur l'oufotisme. Professeur Bois Thiemélé, nous commençons par vous. Pourquoi aujourd'hui il est nécessaire, en tant qu'universitaire, de s'intéresser à ce que vous appelez l'oufotisme?
Merci de me donner la parole pour parler de quelqu'un qui a marqué ma génération. Moi, je suis né en 1957, donc je suis né juste avant les indépendances. Mais j'ai pu bénéficier d'abord à l'école primaire, ensuite au lycée, au collège et à l'université, des actions politiques, économiques et culturelles du président Félix Houphouët-Boigny. En tant que jeune fougueux, nous l'avons combattu. Et puis, en tant qu'individu qui se dirige paisiblement vers la fin de sa vie, c'est-à-dire à un âge où on prend sa retraite de fonctionnaire, on fait un détour vers soi, on regarde derrière soi et puis on fait le bilan de sa vie. Et dans ce bilan-là, je me rends compte que nous avons vécu avec un grand homme que nous n'avons pas suffisamment connu. Ou bien, pour d'autres, ils ont trop connu Houphouët-Boigny. Alors, il est décédé en 1993. Et je pense que 30 ans, c'est un laps de temps suffisant pour prendre du recul et puis revenir sur ce que l'homme politique a été, ce que le penseur a été, même s'il n'a pas laissé d'ouvrage, mais il a laissé d'innombrables discours. Et sa pensée peut être étudiée et c'est largement suffisant les 30 ans hein, pour à nouveau frais penser sur ce que ce grand homme a fait.
Alors, docteur Boulou, vous êtes plus jeune, hein, mais pourquoi un jeune docteur comme vous s'intéresse, vous êtes géographe, hein, s'intéresse à ce père de la nation, comme on l'appelle, Félix Houphouët-Boigny?
Merci, pourquoi, monsieur. Je voudrais avant tout pour saluer les auditeurs et les auditrices de la fréquence de la paix. Il faut tout de suite dire que au décès de Félix Houphouët-Boigny, moi j'avais à peine 12 ans, donc je pourrais dire que je n'ai pas connu l'homme véritablement. Mais force est de remarquer aujourd'hui que ses œuvres, 30 ans après sa mort, militent à ce que vraiment on puisse marquer une pause et penser à ce qu'on pourrait appeler le génie politique de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, ses œuvres font consensus. Et quand il parle de ses œuvres de façon transversale, c'est ses œuvres de façon multidimensionnelle, que ce soit au niveau politique. 30 ans de stabilité, alors que déjà à côté de nous, il y avait l'ébullition dans toutes les nations, c'est un fait qui devait attirer notre attention. Et 30 ans après, on sait ce qu'on a connu et ce que nous connaissons aujourd'hui. Premier élément. Et au niveau du développement territorial de la Côte d'Ivoire, ses œuvres parlent également à ce que nous marquions un temps pour réfléchir au génie politique de l'homme. Quand nous voyons ces infrastructures, ces ouvrages, pour la plupart qui ont été réalisés autour des années 60-70, mais qui sont des ouvrages futuristes, il y a lieu de s'interroger sur le génie politique de l'homme. Alors qu'à côté de nous, 50 ans, 60 ans après les indépendances, on voit le désert infrastructurel dans les autres pays. Et je veux dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est les œuvres de l'homme, aussi bien politiques, aussi bien infrastructurelles, aussi bien au niveau de la cohésion sociale. C'est tous ces éléments, 30 ans après, qui nous amènent à dire, tiens, il est important de conceptualiser, de formaliser l'homme à travers sa pensée, ses actions, qu'on appelle aujourd'hui l'oufouitisme, et lui donner une base saine pour que nous puissions nous en inspirer pour encore aller 50 ans plus tard en avant. Voilà un peu le fondement de notre intérêt pour l'oufouitisme.
Une base saine, hein, justement, avec cette approche méthodologique hein, des scientifiques.
Tout, tout à fait, tout à fait.
Des chercheurs. Alors, vous, docteur Moulumba, vous êtes congolais.
Oui.
Et puis, vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire à l'occasion donc, de ce colloque international. Vous avez donc présenté une communication pour faire un parallèle entre Oufo-Boigny et un autre père de la nation donc congolaise, Zaï, comme on l'appelait à l'époque, donc Mobutu Sese Seko. Alors, pourquoi cet intérêt pour Félix Oufo-Boigny et pourquoi ce parallèle avec l'un des pères fondateurs donc du Congo?
Ok, merci beaucoup. Je salue celles et ceux qui nous suivent. En fait, tout est parti de la lecture des mémoires d'un diplomate américain qui a fait beaucoup d'années en Afrique, Herman Cohen. Dans ses mémoires, il parle un peu d'Oufo-Boigny, il parle aussi de Mobutu parce qu'il a connu les deux personnes. Alors, à l'intérieur, il parle du fait que Mobutu considérait le président Oufo comme son père spirituel. Du coup, comme j'étudie la politique africaine de Mobutu, c'était pour moi une brèche pour essayer de voir un peu les similitudes et voir, au fait, l'influence qu'a eu la politique et la vie d'Oufo-Boigny sur Mobutu. Alors, c'est vraiment pour moi un combat, celui d'étudier en profondeur nos leaders africains qui ne sont pas suffisamment étudiés, même dans nos écoles. Si je vais chez moi en RDC, en dehors peut-être de nous qui sommes universitaires ou enseignants-chercheurs, les citoyens lambda, ils ne connaissent pas Oufo-Boigny. Nombreux, ils ne les connaissent pas et vice-versa. Et si on demande peut-être aux gens ici qui connaissent Lumumba, Mobutu, ils sont peu. Alors, quand j'ai vu la possibilité de mener une étude sur Oufo-Boigny et Mobutu, cela m'avait vraiment séduit. Et en étudiant, je me suis rendu compte que le président Oufo n'est pas bien connu. Parce que sa grandeur est telle qu'on ne l'a peut-être pas encore compris. Et j'invite peut-être les gens à lire les mémoires des Cohen. Ils vont voir comment est-ce que le président Oufo a eu une grande influence sur Mobutu. Et ce que j'aimerais peut-être qu'on puisse faire, c'est que nous puissions davantage étudier d'autres leaders politiques africains et qu'on puisse un peu sortir du prisme de la guerre froide. Prisme qui prend la guerre froide comme seul mode d'analyse d'équilibre. Ce qui veut dire en sorte que dans les relations afro-africaines, afro-américaines, etc., on ne voit que cette bipolarité du monde, etc. Et cela, au fait, fait en sorte que nos leaders politiques, on les voit comme des objets. Et pourtant, c'est les Africains qui ont fait leur propre histoire et non l'étranger.
Alors, professeur Boitemelé, vous êtes philosophe. Savons qu'en philosophie, on étudie ces grands penseurs qui alimentent un peu la vie politique. Aujourd'hui, votre démarche en tant que philosophe, en intégrant cette équipe de réflexion sur les œuvres de Félix Oufo-Boigny, c'est quoi?
Il nous appartient, en tant que chercheur, d'entrer dans la vie et les œuvres du Oufo-Boigny pour en déceler les aspects. Quels sont les aspects que, du point de vue, moi, de ma discipline, je pourrais voir? Et il y a la vision morale, c'est-à-dire l'éthique de la pensée du Oufo-Boigny. Il y a, par exemple, la vision politique. Quelle est sa conception de la politique? Quelle est sa conception même de la vie politique? En plus de ça, nous pouvons voir une relation entre la politique et la morale, c'est-à-dire l'idéal de justice. Quelle est sa vision de la justice? De la justice en tant que théorie, mais de la justice en tant qu'effectuation dans la société de notre vision du monde. Et donc, voilà des aspects qui pourraient être objet d'étude de la philosophie. Évidemment, c'est comme tout ce qui tourne autour d'une doctrine. Quand on dit le christianisme, quand on dit le marxisme, quand on dit le nietzschéisme, il peut y avoir plusieurs courants. Il y a des gens, et c'est ce que disait le professeur Niamke, il pourrait avoir une vision dogmatique. L'apologie, c'est-à-dire ceux qui feraient du Oufo-Boigny quelqu'un de grand qui n'a fait que de bonnes choses. Cette vision-là peut déboucher aussi sur le dogmatisme, c'est-à-dire penser que Dieu tient la vérité et que ce que l'on dit du faux Boyen est la seule vérité.
C'est un humain, bien sûr.
Voilà. Et justement, c'est pour cela encore que toutes ces études que nous sommes en train de mettre en place, parce que le fautisme est en construction, et c'est ce que nous a dit le professeur Jean-Noël Loukou, le cadre qui a été pensé aujourd'hui. Ce pourquoi nous nous sommes réunis, c'est de mettre les premiers pas, les fondements et les fondations d'une doctrine en construction. Et donc, cette doctrine en construction va révéler ses différentes orientations.
Alors, docteur Boulou, vous vous êtes intéressé aux origines, justement, de ce concept. C'est né de quel constat? À quel moment on a senti le besoin, justement, de formaliser quelque chose qui s'appelle le fautisme aujourd'hui?
Merci. À toute fin utile, je voudrais préciser que je suis géographe de formation.
C'est cela.
Et depuis un moment, nous avons commencé une série d'études sur le fautisme. Le géographe, je vais dire, son objet d'étude, c'est tout ce qui met l'homme au cœur du développement territorial. Et nous sommes partis d'un postulat. Nous sommes partis du développement que nous avons hérité de l'ère Oufoué. Et c'est ce développement-là qui attire notre attention. Mais avant d'analyser ce développement territorial-là et le projeter, il était important de faire une étude rétrospective. Et c'est ce qui nous a poussé à nous intéresser à celui qui était le père fondateur de la nation à tous les niveaux. Et il était important, bien entendu, de nous intéresser au fondement, à l'origine même de l'oufouitisme, c'est-à-dire la pensée d'Oufoué. Quelle est cette pensée qui a guidé l'homme et qui a projeté la Côte d'Ivoire si loin dans son développement territorial? Voilà un peu nos motivations. Et comme je disais, une série d'études, après les fondements, les origines, nous abordons maintenant le cap de l'aménagement du territoire sous le prisme de l'oufouitisme. Et ça, c'est un ouvrage en préparation. Mais il était déjà important pour nous, parce que pour nous, c'est le fondement qui est important. Le fondement de toute chose est très capital. Parce que le fondement n'est pas bien perçu, on risque d'enlever sa scientificité à l'oufouitisme et ça risque d'aller dans tous les sens. C'est pourquoi nous avons voulu quand même recentrer le débat autour de l'origine et du fondement de l'oufouitisme. Et à ce niveau, je pense que le temps nous permet, nous allons voir que c'est toute une philosophie de pensée qui a guidé le développement territorial de la Côte d'Ivoire.
Justement, parlons d'origine. C'est né de quoi?
Quand on parle de l'origine du loufouitisme, l'origine est indissociable, je veux dire, de nos valeurs, je veux dire, ancestrales, de nos valeurs traditionnelles. Et là, j'insiste dessus parce qu'aujourd'hui, c'est le drame que nous connaissons. On veut se projeter en reniant et en niant nos origines traditionnelles. Oufou Boigny a fait ses premiers pas, en tout cas, les valeurs qui lui ont permis de projeter cette Côte d'Ivoire, c'est d'abord avant tout les valeurs traditionnelles acquises au niveau de la cellule familiale. Aujourd'hui, nous sommes à une ère où la cellule familiale est en train de s'éclater. Où aujourd'hui, nos éducations, c'est sur Facebook. Nos éducations, c'est dans la rue. Est-ce que nous pensons que nous pourrons, je veux dire, projeter des oufoués en ayant cette société où on est en train de mettre en marge la famille? L'oufoutisme commence d'abord dans la cellule familiale. Oufou, nous sommes sans ignorer que Oufou a été formaté par son éducation, je veux dire, traditionnelle, ancestrale, qui lui a inculqué cette valeur du travail, cette valeur du commandement, cette valeur du pouvoir. Et ça commence d'abord là. Et c'est très important. Ensuite vient maintenant l'influence de l'instruction occidentale. Et là, on va y entrer. Et après quoi? Il y a la personnalité de l'homme. Puisque la personnalité vient de ce que nous recevons comme culture, que ça soit au niveau traditionnel, que ça soit au niveau moderne occidental, c'est ce melting pot-là qui a fait ouvrir sa personnalité. Voilà. Et c'est très important.
Le melting pot, vous l'avez dit, l'ouverture en tout cas vers le monde extérieur. Justement, parlant du monde extérieur, vous êtes Congolais. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance d'affirmation de l'Afrique. Pour revenir au père fondateur, à l'origine, ces personnalités-là, dans leur politique de développement de leur pays. Et quelles étaient, je peux dire, des trajectoires à suivre? Aujourd'hui, on parle de Lumumba. Quand on parle de Lumumba, on parle un peu de Mobutu, un peu comme le traître qui a collaboré avec l'Occident pour asservir son peuple au fouet. Certains estiment que, bon, il a trop collaboré avec les Occidentaux, docteur Moulumba. Okay.
Merci beaucoup. Il faudrait d'abord revenir en arrière pour voir que nous avons eu beaucoup de pères fondateurs en Afrique. Alors, dans mon exposé, je montre que c'était au fait des gens, des leaders charismatiques qui, chacun avait une certaine idée de ce qu'il voulait. Au fond, moi, j'ai toujours vu que presque tous les leaders africains, nos pères fondateurs, presque tous, ils étaient pour l'intégration. Mais le vrai problème, c'était peut-être l'application. comment est-ce qu'il fallait l'appliquer? Comment est-ce qu'il fallait partir? Il y a eu un groupe qui était pour que ça puisse se faire tout de suite. Il y a eu un autre groupe qui voulait qu'on y aille palier par palier. Mais bon, c'était des points de vue différents. Et c'est pourquoi je reviens encore au prisme de la guerre froide. Parce que le fait que nous avons recouvert nos indépendances dans une période vraiment compliquée, des bipolarités, cela fait en sorte que toute action de nos chefs d'État, donc là je parle des pères fondateurs, est analysée par rapport à ce prisme de la guerre froide. Vous voyez, du coup, vous parliez par exemple du président Houphouët-Boigny. Tout ce qu'il va faire, les gens vont voir la France derrière. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il était allié de la France. Or, lorsque vous lisez aujourd'hui les mémoires des diplomates qui sortent, par-ci, par-là, vous allez voir que ces gens, Mobutu avec les Américains, Houphouët et tous ses pères fondateurs, ils n'étaient pas toujours d'accord sur la manière de travailler. Et les mémoires d'Hermann Cohen sont en fait assez instructives sur ce point.
Hermann Cohen, on précise, c'est un ambassadeur américain.
Voilà, hein, qui a fait beaucoup d'années en Afrique, en Côte d'Ivoire, comme chez moi au Congo, à l'époque Zaïre. Donc, il nous montre au fait que c'était au fait des individus qui avaient peut-être une politique qui voulaient mettre en place, mais qui ont peut-être, pour des raisons différentes, choisi peut-être tel ou tel autre partenaire. Alors, c'est pourquoi je suis en train de prôner l'étude profonde de nos leaders politiques. Le docteur Bolou parlait ici du fait que Houphouët ne voulait pas qu'on puisse renier nos valeurs traditionnelles. Au fait, c'est ce que Mobutu a fait, par exemple, quand il a apporté son idée du recours à l'authenticité. Vous voyez, ce sont des idées qui sont venues nous dire que, certes, on accepte l'extérieur, mais on reste quand même africain. Aujourd'hui, avec la modernité, on voit beaucoup de pensées qui viennent de l'extérieur. La question est simple, est-ce qu'on devrait les prendre telles qu'elles se présentent ou est-ce qu'on devrait les adapter? Et donc, pour conclure, je pense que nos pères fondateurs sont des personnes à étudier en profondeur et tout cela en nous débarrassant un peu de ce prisme de la guerre froide qui voit chacune de leurs actions comme un dictat de l'extérieur.
Au plan méthodologique, professeur Boitemélé, un homme politique, hein, c'est un humain qui a aussi ses imperfections, qui a aussi ses bonnes actions. Comment présenter, en termes de véhicule d'information à donner à la jeune génération, comment présente aujourd'hui cet homme politique qu'est Houphouët-Boigny? Est-ce qu'on doit voir Houphouët seulement sous l'angle politique, ce gestionnaire de la cité, ou c'est Houphouët multifacette?
Ok, merci, c'est une vaste question. Bon, je vais être obligé de parler de moi.
Bien
dans
sûr.
Mon dernier livre, qui a pour titre... le poète, le philosophe et la politique, sous-titré « Pensée paradoxale sur Bohu Dali et Zadi Zaourou », qui a été ministre de la Culture sous Henri Conan Bédié de 1993 au coup d'État de 1999. Je montre dans ce livre que Bohu Dali et Zadi Zaourou ont eu des parcours qu'on pourrait juger du parcours ambigu. C'est-à-dire, ils ont dit et fait des choses qui parfois étaient en contradiction avec ce qu'ils écrivaient dans leurs romans et dans leurs poèmes. Mais j'ai dit, mais ça, ce n'est pas propre à ces deux individus, c'est propre à l'être humain. C'est un peu la conclusion de l'ouvrage. Nous sommes tous, en tant qu'individus, parcourus par ces ambiguïtés, par ces positions paradoxales. Si bien qu'on ne peut pas dire d'un être humain qu'il est à la fois tout blanc ou bien tout noir. On trouvera toujours dans ce que nous faisons des choses qui plaisent, des choses qui déplaisent. Et si cela arrive à Houphouët-Boigny, c'est même la preuve que c'est un homme riche. C'est-à-dire qu'il a eu un parcours qui peut être récupéré par tous ceux qui se réclament de sa pensée. Donc il peut y avoir un Houphouët de gauche, il peut y avoir un Houphouët de droite, il peut y avoir un Houphouët de centre, et donc il peut inspirer des libéraux, il peut inspirer des révolutionnaires, il peut inspirer des réformistes, mais parce que justement, on trouve tout ça là dans la vie d'Houphouët-Boigny. Il a commencé par le communisme, après il a pris sa distance, il a évolué vers le libéralisme, vers le néolibéralisme, mais un néolibéralisme teinté d'humanisme. Et donc les sociodémocrates peuvent également le récupérer dans leur vision de la production et de la redistribution de la richesse. Mais tout ça, c'est la qualité de l'homme.
Docteur Boulou, vous parliez en tant que géographe de ce génie d'Houphouët, déjà dans les indépendances, avant même bien cela, qui avait déjà une vision de ce que la Côte d'Ivoire pourrait être aujourd'hui. on remarque, nous sommes à la Fondation Folie sous Vauboigny, qui a été créée pratiquement dans les années 70, 80, mais qui tient encore ce bâtiment qui nous abrite ici dans le cadre de ce débat. Oufoué, on le sait que c'est un médecin, réussit à bâtir la Côte d'Ivoire moderne. Comment on l'explique en tant que géographe?
Je souscris déjà à tout ce que le professeur Bois a dit. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ses œufs font consensus. Et comme je lui disais, Oufoué déjà... les vertus, la philosophie qui a permis Oufoué de se projeter dans le futur part déjà depuis la base. Et comme je le disais, on ne peut pas espérer avoir des Oufoué dans 50 ans, 100 ans, si nous réunions ce qui fait la base. Oufoué savait se projeter, Oufoué savait être patient en réalité, Oufoué savait préparer l'avenir. La preuve, Oufoué n'a pas préparé son pouvoir en 2-3 ans. Déjà, depuis qu'il était élève à Dakar, déjà, il s'était fait entourer d'un certain groupe d'amis. Déjà, il a développé en lui ce qu'on appelle le don de soi. Se donner pour la cause de ceux qui sont martyrisés. Il est déjà élève. Dans le milieu professionnel, Oufoué n'était pas qu'un simple professionnel qui attendait son salaire chaque fin du mois. Il avait une relation fusionnelle avec ses patients. Et les écrits nous disent, les témoins nous disent que sa poche même était ouverte même pour soutenir ses malades. Il faut dire, mais c'est d'abord des vertus. Pour planifier ton pays sur, je veux dire, 50 ans, 100 ans, il faut avoir un amour profond de l'homme et un amour profond de ton pays. C'est ça Oufoué. Donc, quand on pose la question, comment Oufoué arrive aujourd'hui à projeter la Côte d'Ivoire? C'est parce que Oufoué il s'est pas contenté de penser à son clan. Il ne s'est pas contenté de penser à ses héritiers. Il avait un amour profond pour l'homme ivoirien, un amour profond pour l'Afrique. Il avait un amour profond pour l'homme tout court et pour son pays. Voilà un peu la philosophie d'Oufoué qui l'a amené à se projeter sur 50 ans en offrant la Côte d'Ivoire les meilleures des infrastructures qui pouvaient exister à l'époque. Et au constat, on le voit. Ce qu'il faut réaliser, je lui dis bien, il y a 50 ans, 40 ans, tiens encore dans le temps. Et ça va tenir encore 50 ans. Alors que, permettez-moi de faire cette comparaison, ce que nous réalisons avec nos générations aujourd'hui, à peine 5 ans, 10 ans, et ça dénote de notre manque d'amour véritablement pour l'homme, notre manque d'amour pour notre nation. Donc c'est des philosophies, c'est des fondements réels qui ont permis à Oufoué de se projeter aussi loin. Et nous en sommes aujourd'hui fiers.
Et il a fait des émules, hein, notamment le président Zaïrois. Cette envie de nos pères fondateurs de marquer aussi leur présence à travers des œuvres, c'est parti de quoi? Quand nous parlons de la basilique ici à Yamoussoukro, ça fait polémique à l'époque. Aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage, de visite. Comment on pourrait expliquer cette volonté déjà de nos pères fondateurs de marquer leur génération à travers ces œuvres-là gigantesques, hein, Dr Moulumba?
Okay, merci beaucoup. C'est d'abord par dignité. C'est d'abord par dignité parce que lorsque vous regardez après les indépendances, nos pères fondateurs ont voulu au fait montrer à la face du monde ce qu'il peut faire. Je peux prendre même le discours de Lumumba des 60 quand il dit que vous allez voir ce que l'homme noir peut faire lorsqu'il peut travailler librement. Vous voyez, c'est peut-être des travaux qui étaient considérés par les détracteurs de nos pères fondateurs comme les éléphants blancs. Quand vous prenez par exemple les barrages d'Inga, on dit que c'était un éléphant blanc. Vous voyez, on dit que c'était le temps des éléphants blancs. Ben, on peut en discuter, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que Oufoué Boigny, Mobutu Sese Seko et Kaunda, etc., ce sont des gens qui, à un certain moment donné, quand ils ont pris les pouvoirs, ils ont voulu d'abord fonder les nations qui étaient au fait des groupes d'ethnies différentes. D'ailleurs, vous allez voir que le président Oufoué est avec un pays d'une grande diversité. Il a su garder la cohésion et l'unité pendant un certain nombre de temps. Et moi, je me suis toujours posé la question, si nous n'avions peut-être pas eu de tels chefs qui ont fait beaucoup d'années au pouvoir, qu'est seraient devenus nos États avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de diversité? Par rapport à mon pays, par exemple, je rappelle qu'on a plus de 250 groupes ethniques. Vous voyez?
C'est un vaste pays. Hein.
Voilà. Mais du temps des Mobutu, par exemple, il a instauré ce qu'on appelait la territorialité des non-originaires. C'est-à-dire, vous êtes peut-être de la région de Yamoussoukro, vous ne pouvez jamais diriger ici. On vous envoie peut-être à Abidjan et on fait comme ça. Ce qui a fait que cela a permis de créer une unité, une identité nationale. Ce qui a fait que les gens pouvaient se dire, je suis Zaïrois. Ce qui fait que quand il y a des massacres au Kivu, par exemple, quelqu'un qui est au centre en Mbujimayi peut s'indigner, quelqu'un qui est au nord. Et il n'y a pas que Mobutu, il y a Oufoué, il y a tous ces pères fondateurs qui ont tout fait selon leurs moyens. Ils ont des défauts, bien sûr, on doit les reconnaître, mais ils ont fait un certain nombre de travaux qui existent encore aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs les livres des Mobutu les plus connus, Mobutu, Dignité pour l'Afrique. Vous voyez, c'était en fait cette idée de montrer aux autres, principalement, même à leurs partenaires, pour leur dire que nous sommes des humains considérez-nous comme des humains, nous allons faire ce qui est bon pour nos populations. Et sur ce point-là, c'est vraiment des valeurs que les actuels chefs d'État devraient peut-être imiter pour donner davantage des sourires au peuple africain meurtri par la guerre et toutes ces autres difficultés qu'il y
a. Pour parler des héritiers de Faubourgny, un concept qui a divisé l'ivoirité, est-ce que c'est un peu dans la continuité de cette idée d'oufoutisme ou bien c'était un concept mal cerné, galvaudé par ceux peut-être qui devaient l'implémenter?
Question à la fois pertinente, polémique, parce que j'aime bien cette expression que vous avez utilisée, galvauder cette idée, cette notion, ce concept. J'ai écrit deux livres, L'ivoirité entre culture et politique, a été publié en 2003, donc vous voyez, ça fait plus de 20 ans. Et puis, L'ivoirité, l'unité de la Côte d'Ivoire, ça c'est un livre qui date de 2015, ce livre est plus récent. Alors, j'ai écrit sur ce concept parce que je m'étais étonné. Je me suis dit, mais pourquoi on ramène tout à ce concept? Pourquoi on accuse ce concept d'être à la base de tout ce qui nous arrive comme malheur? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai ou bien est-ce qu'il y a du faux dans cette accusation? Et puis, au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que mais ça allait dans tous les sens. Il y avait beaucoup d'accusations inutiles, beaucoup de mauvaise volonté, beaucoup d'incapacité de ceux qui utilisaient le concept à aller au livre même, au livre et au discours de ceux qui utilisaient ce concept. Au bout du compte, il y a tantôt mauvaise volonté et puis paresse intellectuelle de chercher. Et puis aussi, quelque chose qui va peut-être vous surprendre, un agacement de ceux qui ont créé le concept. J'ai discuté avec certains acteurs de ce concept. Ils disent que mais nous sommes fatigués d'expliquer ce concept. Parce que face à des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas comprendre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Sans vous couper, pardon, ce n'était pas une contradiction de l'oufouétisme. Le oufoué, on le connaissait un peu comme celui qui était ouvert, qui recevait au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et puis, l'ivoirité, telle que présentée, c'était un peu comme on revenait sur les fondamentaux de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'était pas aussi ça qui a fait qu'on ne comprenait pas, justement? C'était un peu comme une opposition à cette pensée de fouet?
Non, ça a été autre chose. Ça a été de la manipulation volontaire de certains. Alors, pour être simple, Oufoué parlait non pas d'ivoirité, mais d'ivoirisation. Voilà. Le concept est né sur le plan politique en 1995 dans la bouche de M. Henri Conan Bédier. J'ai dit bien sur le plan politique, mais sur le plan culturel, le concept, il apparaît en 1974 sous le texte de Pierre Niava qui rendait compte des œuvres de Niangoran Porqué qui en appelait face au panafricanisme ambiant à une ivoirité, c'est-à-dire ce que les Ivoiriens allait apporter à l'intérieur d'une pensée panafricaine, c'est-à-dire c'est l'identité des Africains, mais pas une identité isolée, mais une identité à intégrer dans l'africanité.
Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire apporte aux autres, hein?
Voilà justement ce que l'Ivoirien devait apporter aux autres en tant qu'Ivoirien intégré à l'africanité. Mais Oufoué, lui, il parlait d'ivoirisation des cadres. L'idée, c'était quoi? C'était que nous étions des pays jeunes, nous n'avions pas suffisamment de cadres. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut faire appel à nos frères d'abord des pays environnants et ensuite faire appel à ce qu'on appelait à l'époque les coopérants européens français. Eux, ils allaient venir former les cadres ivoiriens. Et puis lorsque nous aurons eu suffisamment de cadres, les Ivoiriens allaient donc prendre les rênes de leur pays. Mais en attendant, nous avons eu besoin de l'expertise à l'époque de ce qu'on appelait les Dahomey, les Sénégalais, les Congolais, les Togolais, tout ça là. Ils étaient dans nos écoles en primaire, au lycée, dans l'administration, un peu partout. Et puis petit à petit, quand nous avons eu suffisamment de cadres, ils ont libéré la place pour que les Ivoiriens prennent leur pays en main. C'est ça, l'ivoirisation des cadres. Ce n'était pas dirigé contre quelqu'un, mais c'était dirigé en priorité vers les Ivoiriens, mais avec l'apport positif de nos frères étrangers. Et je pense que c'est sur cette idée de l'ivoirisation des cadres que M. Bédier, en 1995, va s'appuyer pour donner à l'ivoirité l'occasion pour que les Ivoiriens puissent affirmer l'amour de leur pays, vivre et penser pour la Côte d'Ivoire. Mais un élément fondamental de l'ivoirité
qui a été souvent tue, c'est que Bédier avait constaté que les Ivoiriens étaient en train de se replier sur eux-mêmes, sur leur groupe ethnique, sur leur religion, sur leur terroir. Il dit non. Moi, je prends en main un pays. Il venait donc de terminer le mandat du président Oufo-Boyen. Il dit, nous avons un pays à construire. Si vous vous repliez sur votre groupe ethnique, sur vos communautés, la Côte d'Ivoire ne va pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun vive et pense pour la Côte d'Ivoire. C'est ça l'ivoirité. Penser et vivre pour la Côte d'Ivoire. Au lieu de penser et vivre pour son village, pour son groupe ethnique ou bien pour sa région. Donc, faire de la Côte d'Ivoire un nouveau sujet de notre amour, de notre attachement. Voilà simplement présenter l'Ivoirie.
Je retiens un peu cette idée-là, ce que la Côte d'Ivoire apporte aux autres. Justement, aujourd'hui, Dr Moulumba, pour parler un peu de ce que l'Afrique peut apporter au monde, quel enseignement on peut tirer de nos pères fondateurs dans le sens de la grandeur africaine? Quel enseignement on peut tirer d'Oufo-Boigny, de Mobutu?
Au fait, la leçon la plus importante, à mon humble avis, c'est d'abord les consensus. Les consensus parce que, vous savez, la guerre, vous pouvez la commencer, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et gagner ou non, vous allez finir par négocier. Donc, ça serait mieux de négocier en amont que de venir négocier en aval. Alors, il y a cette phrase que j'ai du président Oufouette, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc, moi, je suis porté à croire que nous avons dans notre culture, on revient en nous. Nous allons trouver que la culture africaine, c'est une culture du consensus. L'arbre à palabre. On peut avoir des différends, mais nous pouvons nous asseoir, discuter. Et à l'issue de cette discussion, on va trouver une réponse. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure des leçons que nous pouvons retenir dès nos pères fondateurs. Parce qu'ils ont eu certainement des différends. Mais de temps en temps, ils ont eu le temps de discuter. C'est pourquoi vous allez voir le président Oufouette-Boigny comme Mobutu, ils ont fait beaucoup de médiations de paix. Donc on sait peut-être qu'il y a deux voisins qui ne s'entendent pas. On s'est dit, on intervient. Moi je pense que si on pourrait aller dans ce sens, ça nous permettrait d'éviter beaucoup des crises politiques ou des coups d'État. Parce que lorsqu'on estime peut-être qu'il y a un dirigeant qui ne prend pas le bon chemin, les autres peuvent en amont aller le voir pour donner des conseils, s'asseoir et trouver des solutions. Ça nous permettrait d'éviter beaucoup de dégâts.
On notait que ces dirigeants-là de l'époque prenaient beaucoup l'unité africaine. C'est ces personnes à la base de beaucoup d'organisations, donc sous-régionales africaines. On a eu même l'exemple, un témoignage donc de la création de Air Afrique à l'époque, et la compagnie africaine par essence. Aujourd'hui, quelles leçons on peut tirer pour ce projeter dans l'avenir?
En fait, moi je suis historien, l'histoire devrait au fait nous servir. Parce que l'importance de l'histoire, c'est de voir ce qui a marché hier et ce qui n'a pas marché. Alors, on parle de l'intégration. Vous savez, c'est difficile pour un Africain de voyager en Afrique qu'à l'extérieur. On a parlé du projet avec le président Oufouette Air Afrique, etc. Au fait, moi je pense que dans presque beaucoup de nos États, nous avons besoin d'une vraie intégration. Briser les frontières qui existent. Mais tout cela ne peut pas se faire si nous ne sommes pas capables de laisser de côté nos différends, nos égaux, nous asseoir et discuter pour le bien des populations. Alors sur ce point, on est vraiment appelé à revenir à ces idées de l'époque, c'est-à-dire des idées d'intégration. On peut se dire, dans la politique, dans l'oufouettisme, dans la politique d'Oufouette-Boigny, quelles sont les idées qu'il a lancées visant l'intégration africaine? On peut regarder à l'état actuel, on s'est dit, l'idée de cette société d'aviation est très importante. Regardez aujourd'hui beaucoup des sociétés d'aviation qu'on a, des petites sociétés qui font faillite. Et pourtant, si nous avons une grosse société, ça serait peut-être mieux. Et voir dans la politique des Mobutu, Mobutu a lancé l'ALENA, la Ligue des États négro-africaines. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? Si c'était bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller ça aujourd'hui? La CP, voir toutes ces organisations, j'ai étudié les deux, mais lorsqu'on voit Kaunda, on voit Kadhafi, on voit tous ces gens, ils ont avancé beaucoup d'idées intéressantes qui pourraient aujourd'hui nous aider en revenant à nous-mêmes.
Professeur,
très bonne idée, et là je vais me diriger vers le géographe. Ce que Moulumba vient de dire est très, très intéressant. Quand on regarde l'Afrique, on a ce sentiment malheureux que nous avons continué la politique coloniale, c'est-à-dire la direction de nos routes. C'est du nord vers le sud. Il est temps de faire des routes transversales, c'est-à-dire d'est en ouest ou bien d'ouest en est. Il faut abandonner cette idée-là qu'un pays, c'est le nord vers le sud seulement. Et donc,
penser à la construction de voies ferrées de routes inter-états.
Docteur Boulot, justement, c'est une triste réalité. Hein, c'est un fait. Pour parler des rails, sud, nord, où aux indépendances, ces chemins de fer se sont arrêtés, 60 ans après, c'est les mêmes. On n'a pas pensé à continuer. Nous parlons de l'unité, nous avons l'UIA, nous avons la CDAO et bien d'autres organisations. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre ?
C'est une question pertinente. Mais avant de revenir même au sujet, je voudrais encore saluer la mémoire de nos pères fondateurs. Ils étaient très souvent en avance sur leur temps parce qu'en eux, il y avait la dignité, comme le disait. Ils voulaient laisser des empreintes de leur époque aux générations à venir. Et je prends le cas de Air Afrique. Pendant que nos pères fondateurs pensaient à Air Afrique, au niveau de l'Europe, il n'y avait pas de telle compagnie. Pendant qu'ils pensaient au UIA, on ne parlait même pas de l'Union européenne. Je veux dire, sur tous les plans, nos pères fondateurs étaient très en avance. Il faut le dire simplement, ils étaient très en avance dans tous les domaines de pensée, d'organisation sous-régionale. Et vous savez que le monde est en compétition, et ça aussi, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Nous sommes en compétition, n'oubliez pas la géopolitique. Et pendant qu'on nous emmène par les produits de réajustement structurel à abandonner des choses en réalité qui sont pérennisées chez eux, on se rend compte qu'en réalité, on revient à la case de départ. Mais le secteur de l'électricité, de l'eau, des rails, c'est encore l'État français tient ce secteur-là. Regardez tout ce que nos pères fondateurs ont pensé, sont où aujourd'hui. Ça fait l'objet de concessions. Pour ne pas dire, ça a été privatisé. Pour dire qu'ils étaient très en avance sur le temps, comparativement même à certains pays européens dits développés. Mais tous ces acquis aujourd'hui, on les a abandonnés. On ne va plus à l'essentiel et nous sommes là.
En termes de perspective aujourd'hui, pour nous baser sur les fondements de l'oufotisme,
en termes de perspective,
qu'est-ce qu'on peut prendre comme élément
pour... Premier élément, il faut revenir à la dignité africaine. Quand tu n'es pas digne, tu te laisses dicter ce qui est bon pour toi. Alors que le développement ne peut pas venir de l'extérieur. C'est toi qui planifies. C'est toi qui dois savoir que j'ai besoin d'un rail de l'ouest à l'est. C'est toi qui dois savoir que j'ai besoin d'un train à grande vitesse. On ne peut pas venir te dire que toi, ton besoin, c'est uniquement des salles de classe. On ne peut pas venir te dire que toi, tes besoins, c'est uniquement les pompes, comment on dit, à tube motrice. Non! Il faut qu'on sorte de là. Il faudrait qu'on soit d'abord digne africain que nous sommes en nous appuyant sur nos besoins réels. Et évaluer nos besoins réels. Il faudrait qu'on renoue avec le goût du travail. Parce que nos pères fondateurs ont été caractérisés par l'excellence. Quand on parle de Feu Boigny, c'était un gars qui était présenté dans les livres comme excellent dans le domaine professionnel. Aussi bien, il faisait consensus au niveau de ses employeurs, c'est-à-dire les commandants des sectes de l'époque, qu'au niveau des administrés, il faut que nous réunions avec le goût du travail bien fait. Ou Feu Boigny, c'était la perfection. Quand il y avait des chantiers qui étaient engagés, la littérature nous dit lui mais partait sur le terrain pour superviser. Quand c'est mal fait, il donne les instructions, on reprenait. Ou Feu Boigny n'était pas séparé du terrain. C'était un géographe dans l'âme, un homme de terrain. Et il supervisait tout à la perfection. Ça nous manque aujourd'hui. Regardons nos jeunes générations aujourd'hui. On pense qu'on a d'autres moyens pour accéder rapidement à l'argent, à l'épanouissement. Le goût du travail bien fait en train de disparaître. On ne peut pas égaler aujourd'hui. Je vais dire que on ne peut pas aller au rendez-vous de la concurrence avec le modèle, je veux dire, de formation qu'on a aujourd'hui. Dans le terme de perspective, revenons à la dignité, revenons à la formation, revenons à la méritocratie. Tout ça, c'était des valeurs de fouet. Revenons à l'humanisme, parce que si on ne s'aime pas, on sera toujours dans les querelles inutiles et ce qu'on aura conçu sur 10 ans, 5 ans après, on va venir encore pour détruire et ça sera toujours un perpétuel recommencement. C'est ça aussi les valeurs de l'oufouettisme, l'humanisme, la générosité. Toutes ces valeurs aujourd'hui, c'était les valeurs africaines qui ont permis de vivre dans la cohésion, de nous projeter durablement. On parle de développement durable, mais ce développement-là est fondé sur l'homme d'abord, sur la société, sur le travail, sur l'économie. Mais je veux dire non, en perspective, reprenons les leviers de nos développements.
Dernier tour de table, professeur Boitemélé aujourd'hui, qu'est-ce que les populations doivent retenir d'Oufoué, à commencer par vos étudiants et puis la population, le citoyen lambda? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Oufoué?
Le premier chef de l'État de la Côte d'Ivoire moderne, un monsieur qui était animé par le désir de justice et de paix et qui a fondé sa vie privée et sa vie politique sur l'excellence, même s'il y a eu des hauts et des bas en matière de gouvernance, ce que nous pouvons retenir, c'est la bonne gouvernance. Le fait qu'il ne faut pas laisser se développer la corruption, le désordre. Et je pense que Oufoué a été, dans ce sens-là, un homme d'une grande vision pour la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'enseignant-chercheur, je voudrais que l'on revienne aux fondamentaux de l'éducation, de l'instruction.
Docteur Boulou, vous avez parlé de cette génération aujourd'hui, qui, génération Facebook, comme on l'appelle, mais qui ne sait même pas qui est Oufoué. mais c'est même pas aussi en termes d'enseignement, qu'est-ce que vous pouvez laisser? Est-ce qu'il est temps, selon vous, d'inscrire cela dans nos livres?
Tout à fait.
Enseigner cette manière de penser.
Tout à fait. À cet effet, mais je voudrais interpeller aussi les universitaires, les scientifiques. Je voudrais vraiment, véritablement les encourager à ne pas laisser l'oufouitisme connaître le même sort que l'ivoirité. Parce que lorsque les scientifiques restent en marge de tel départ, c'est ce qui arrive par des concepts qui devaient fédérer en réalité. Je veux inviter les scientifiques, les universitaires, vraiment à se joindre, je veux dire non, à cette œuvre de conceptualisation de l'oufouitisme, à l'enseigner à la génération présente. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'offre. Nos jeunes gens n'ont plus d'offres. Les universités sont devenues muettes, chacun dans son petit coin. On a abandonné les universités, les amphis, on est passé à autre chose. Il est temps qu'on revienne à la table, qu'ensemble, on puisse vraiment donner du contenu utile à ce concept du fouettisme, parce qu'en réalité, je vous dis que c'est une source intarissable et c'est une source qui va vraiment faire rejaillir le pays. Parce que comme le disait le professeur, malheureusement, quand nous voyons les pas qui sont posés actuellement du monde de jeunesse, il y a lieu de craindre de ce qui pourrait advenir dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oufoubou n'avait pas souhaité ça. C'est pourquoi les premières grandes écoles polytech, c'est ici à Yamoussoukro. Les universités de renom, c'était ici à Yamoussoukro. Les écoles de formation militaire de renom sous-régional, c'était à Benjerville. Oufoubou planifiait le développement sur 50 ans, 100 ans. Il est temps que nous nous mettions ensemble, universitaires, politiques, société civile, hommes de médias, pour que véritablement on puisse donner un contenu retentissant et utile à l'oufouitisme au-delà de nos frontières.
Docteur Moulumba, vous êtes congolais. Aujourd'hui, vous participez à ce colloque international sur l'oufouitisme. Quel engagement on prend justement à insuffler ces pensées positives là, aux jeunes générations africaines?
En fait, promouvoir la paix. Promouvoir la paix parce que lorsque nous étudions l'histoire de l'Afrique, il y a eu trop de guerres. Il y a eu trop de guerres et ces guerres ne nous ont pas permis d'aller loin. Alors, vous voyez, l'oufouitisme, c'est aussi prôner la paix. C'est prôner la paix. Et Oufouette Boigny a fait 33 ans de pouvoir. C'était une période de paix presque totale. Chez moi, Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. En fait, je peux dire que dans l'histoire contemporaine de mon pays, c'est l'unique période où on a connu la paix sur tous les territoires. Sauf quelques petits moments de petites guerres. Mais c'était ça, la paix. Alors, le professeur Ali Mazrui a conceptualisé le terme de la Pax Africana, paix africaine, conçue et promue par les Africains. Ça, c'est ce qu'on devrait faire, au fait. Nous inspirer de cette idéologie de la paix que nous donne l'oufouitisme pour imposer la paix partout en Afrique. Cela va nous permettre, bien sûr, de voyager d'est en ouest, de faire des routes partout, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire des routes, même si on a de l'argent. Parce qu'on s'est dit qu'on ne va plus utiliser ces routes. Donc, si on peut vraiment se servir de ces leçons, ça nous donnerait des citoyens qui vont être des patriotes, des panafricanistes. Ça va permettre à ce que notre continent puisse émerger.
Merci à vous, Dr Moulumba Ndadia Roland. Rappelle que vous êtes assistant à l'Université de Kinshasa. Merci à vous, Dr Bolou Bitri Abel. Vous êtes maître de conférence donc à l'Université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Vous êtes géographe. Merci à vous, professeur Boatemele Ramsès. Vous êtes professeur titulaire de philosophie donc à l'Université Philosopho-Boigny. Vous êtes philosophe. Merci d'être venu. Amis auditeurs, merci. C'était donc cette table ronde pour parler de Oufou-Boigny. Radio de la Paix a décidé donc de valoriser ce personnage multidimensionnel, on peut le présenter ainsi, avec ses pensées étudiées, analysées par ces chercheurs que nous recevons pour vous. Merci à vous, messieurs.
Merci.
Merci beaucoup.
Portez-vous bien, au revoir.
Les grands débats. Radio de la Paix.